Sud Vendée Sport, Antoine Judith.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Sud Vendée Sport avec autour de la table Christian, Olivier et Nicolas. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Salut la team.
Vous allez tous très bien, évidemment. On va parler dans cette émission, notamment de voile, encore le Vendée Globe, toujours notre promesse d'inviter un maximum de skippers avant cette édition du Vendée Globe au mois de novembre. Vous allez entendre Jérémy Bayou dans quelques instants. Et puis, on aura également un invité tout à l'heure assez exceptionnel, puisque c'est Christophe Brondy, qui est un des responsables du club de karaté de Fontenay. Il nous expliquera un petit peu plus le fonctionnement de son club et aussi cette discipline, le karaté. Donc, mais d'abord, avant de parler de tout ça, on a quand même un petit mot. Une petite pensée pour les Nantais, les jeunes Nantais. Nico, c'est important de le souligner, puisqu'on ne pouvait pas ne pas commencer cette émission avec ça. Le FC Nantes est en demi-finale de Coupe d'Europe, Nicolas.
Oui, pour les jeunes quand même. Faut bien le rappeler, Antoine. Oui, je suis pas objectif. Vous le savez de plus en plus que je suis supporter du FC Nantes. Et voilà, les U19 sont en demi-finale de la Youth League, la Ligue des Champions pour les jeunes, les moins de 19 ans. Et voilà, ils ont réussi à réunir 20 000 spectateurs à la Beaujoire sur ce quart de finale contre Copenhague, avec un scénario de dingue où on mène 1-0. Après, ça fait 3-1. Il y a un carton rouge qui arrive, un pénalty loupé par le FC Nantes. Et voilà, par la force et le courage, ils sont revenus à 3 partout en poussant. Et puis après, une séance de tirs au but. Dingue aussi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est juste dingue. Et,
ce qu'il faut rappeler, c'est que donc déjà le match 3-3.
C'est ça.
Complètement dingue avec le FC Nantes qui était mené 3-1.
C'est ça.
Copenhague qui prend un rouge. Et sur cette séance de tirs au but, Copenhague a une balle de match à un moment. C'est-à-dire que si Copenhague met le tir au but, ils sont qualifiés, c'est gagné.
Mais deux fois ils l'ont. Deux fois. Et d'ailleurs, on le voit, il y a les joueurs sur un moment donné où le gardien arrête le penalty de Copenhague, où tu as tous les joueurs de Copenhague qui commencent à aller parce qu'ils pensaient que la séance de tir au but était finie. Mais non, toujours là. Et puis, je pense que c'est une belle image aussi qu'on puisse donner du FC Nantes avec ces jeunes, la formation qui a toujours été au cœur de ce club, moins depuis 2007, mais voilà, c'est une belle image qu'on donne actuellement et ça fait plaisir d'avoir des jeunes. Donc rendez-vous au mois d'avril, le 19 avril, pour jouer contre l'Olympiakos. Donc ça se passe à Nyon, en Suisse, et sur le siège de l'UEFA. Et puis après, une finale potentielle 3 jours après.
C'est bien, on l'espère. C'est Nyon, c'est pas Lyon. Hein, ne prenez pas vos billets pour aller à Lyon pour voir la finale. C'est bien en Suisse, la finale. Donc c'est un Final Four, en fait. Oui,
c'est exactement ça, c'est un Final Four. Et voilà, ils jouent l'Olympiakos en demi-finale. Voilà, donc on va croiser les doigts. J'ai vu sur les réseaux sociaux que certains supporters nantais s'organisaient pour y aller. Donc voilà, selon le nombre de supporters, ils sont capables aussi de délocaliser à Genève.
C'est une info, écoutez. Ce qu'il faut rappeler, en tout cas, Nantes, dans cette compétition, a pris un petit peu les chemins de traverse pour se qualifier jusqu'ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Youth League reprend les phases de poule identiques de la Ligue des Champions, avec les équipes qualifiées pour la Ligue des Champions. En l'occurrence, vous savez très bien que le FC Nantes n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Donc Nantes est qualifié, on va dire, dans une phase de barrage grâce au fait qu'ils sont champions de France U19 l'année dernière. Et dans cette phase de barrage, ils ont réussi à éliminer Lech Poznan, les champions de Pologne, Helsinki, les champions de Finlande, Séville, les champions espagnols. Séville, pardon, ils sont pas champions d'Espagne, mais ils étaient sortis de la phase de poule. 3 victoires au tir au but, c'est ça qui est dingue. Donc là, c'est la 4e qualification au tir au but, en fait. Donc c'est Tom Babon, le gardien, pour ne pas le nommer, qui a réalisé un petit peu des exploits à chaque fois.
Et qui ils ont éliminé aussi Salzbourg en 8e de finale, qui est un mastodonte avec
grosse formation
avec le Red Bull. Et aujourd'hui, voilà, c'est des grosses infrastructures. Quelques interviews de Stéphane Moreau, le coach, disaient qu'ils n'étaient pas forcément dans le même monde parfois quand ils arrivaient, voilà, par exemple à Salzbourg. Ça donne de l'élan, ça donne une bonne image, et puis un public nantais qui suit, qui est fidèle. Voilà, les résultats de l'équipe première sont pas au niveau actuellement, et on croise les doigts pour qu'il y ait un maintien. Mais voilà, ça serait une belle épopée pour ces jeunes. Et puis on en parlera dans le sujet après, mais ces jeunes, après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont sortir pro? Est-ce qu'ils vont, voilà, on va tous attendre de savoir un peu leur suite.
Certains ont des carrières, ouais, tout à fait. D'autres pas,
ouais, c'est ça. Donc comment ça va être géré, les égos, comment vont gérer les égos, et puis voilà, qu'ils continuent à vivre leur histoire surtout.
Olivier.
Ben justement, peut-être les futurs Renald Pedros, Wadek et Carambeu, peut-être. Hein, voilà.
Perds pas nos auditeurs, c'était en 94-95, ah, Olivier.
Voilà, ben oui, mais justement, ces joueurs étaient issus du centre de formation. Donc voilà, il y a peut-être un espoir que ces jeunes passent pro et justement forment une ossature solide. pour le FC Nantes, quoi. Voilà, c'est ça aussi, c'est ce qu'était la force du FC Nantes, c'était son centre de formation. Et ça, et on le voit, ils ont, comme tu dis, depuis 2007, ça, ce n'est plus le cas. Et ben, ils se sont un peu perdus un petit peu dans les choix des joueurs. Et je pense que ça a toujours été le socle du FC Nantes, et j'espère que ça sera toujours. Dans le futur, ils reviendront justement à ces bases qui ont fait la réputation du FC Nantes.
Sachant que cette équipe-là, il y a déjà un joueur, Nathan Zézé, qui est un joueur à 19 et qui joue déjà avec les pros à 18 ans en défense centrale. Donc lui, pour le coup, il a déjà sauté le pas. Il y a Strader Apua qui a fait quelques apparitions également chez les pros. Donc voilà, l'enjeu pour ces joueurs-là, c'est de réussir à passer le cap, parce que sur ce qu'on voit quand même, il y a quand même une grosse différence entre même le plus haut niveau U19 et le niveau professionnel, mais c'est normal.
C'est complément, ça va être formateur aussi. Quand on voit Copenhague qui avait un attaquant qui, alors j'ai pas le nom en tête,
c'est Højlund, qui a déjà eu du temps de jeu en Ligue des Champions les grands cette saison.
Et contre Manchester City, je crois, en huitième de finale. Donc voilà, il y a une marche à accéder, et puis on espère en avoir quelques-uns, mais on va pas revenir encore sur les années 94-95 avec la formation, etc.
C'est intéressant parce que ce qui propulse la formation dans ces années-là, c'est qu'en 1992, Nantes est au bord de la faillite, et finalement, par défaut, on a été obligé de lancer tous ces jeunes dans le grand bain, et finalement ça a été une grande réussite.
Bah, c'est ce qui nous sauve. Ça aurait pu être un carnage complet, mais on est reparti avec des valeurs, avec Coco Suedo aussi à la tête de l'équipe. Aujourd'hui, il y a une continuité avec Reynaldo Noël jusqu'en 2001, et après derrière, voilà, on a essayé cette année avec Pierre Aristouille. Bon, je pense qu'on l'aurait laissé travailler, ça reste mon simple avis, peut-être qu'il aurait réussi ou pas. On n'est pas à l'intérieur du club, il ne faut surtout pas descendre. Maintenant, si on descend, c'est peut-être un moment de laisser le club pour Valdemar Quitta, et puis d'avoir, mais qui quid après de la reprise. Donc voilà, mais voilà, on va laisser l'équipe première de côté, et puis on va surtout profiter de cette vague jaune qui va déferler à Nyon, on le rappelle, en Suisse le 19 avril pour cette demi-finale, et puis on va encourager propres moyens les Nantais. Exactement.
Les Français sont à la fête en Coupe d'Europe également. Olivier, c'est un de tes coups de cœur de la semaine, avec trois clubs français qualifiés en quart de finale de leur Coupe d'Europe respective, le PSG en Ligue des Champions, Marseille en Ligue Europa et Lille en Ligue Europa Conférence. Olivier, c'est une première depuis 20 ans d'avoir trois clubs français à ce stade de la compétition.
Exactement. Ça faisait très longtemps qu'on a eu autant de clubs en quart de finale. Ça fait plaisir. Ça veut dire que on forme des joueurs, mais on arrive quand même à en garder sur notre territoire un petit peu. Ils ne partent plus tous à l'étranger comme ça a été à une époque. Malheureusement, ça a été un peu comme ça. Et donc, ça fait plaisir, oui, de voir des clubs comme Lille, ça fait plaisir de voir ce club qui n'a pas des moyens énormes par rapport à d'autres clubs qui sont en Ligue des Champions. Il y a Marseille qui se retrouve un petit peu, qui a changé d'entraîneur et qui a amené une nouvelle dynamique, et qui, là, Marseille marche très fort, alors qu'à un moment, ça n'allait pas du tout. Le Paris Saint-Germain, dès que Mbappé est là, ça va tout seul. Donc j'espère que pour sa dernière saison Paris Saint-Germain, il va peut-être soulever le Graal, on l'espère.
Il n'y a que des cadors en Ligue des Champions, il ne reste que des grosses équipes.
Que grosses équipes, voilà.
Mais même en Ligue Europa.
Ça fait très longtemps aussi qu'on a soulevé une Coupe d'Europe, ça fait très très longtemps malheureusement. Tout est permis. Ici, on a l'envie, on peut battre des grosses équipes, parce que rien n'est impossible en football, hein, c'est ça un peu la magie du football.
Quand tu vois le tirage au sort et les cadors qui existent, Olivier, tu as Paris qui va avoir le Barcelone, Marseille et Benfica, et Lille Aston Villa. Donc il y a rien de fait sur ces clubs-là. Ça va être compliqué.
Tout à fait, peut-être. Mais effectivement, ça fait très plaisir. Ça montre aussi que les sortes de formations fonctionnent. Hein, aussi. Également, on en parlait avec le FC Nantes. C'est l'envie qui va déterminer un petit peu la suite donnée en Ligue Europa Conférence.
Christian, j'aimerais qu'on revienne rapidement avec toi sur l'Olympique de Marseille. On rappelle que tu es spécialiste du mental, coaching mental. Marseille était une équipe au fond du seau il y a encore un mois et demi. Un nouvel entraîneur est arrivé, Jean-Louis Gasset, 70 ans. Peut-être sa dernière expérience en tant qu'entraîneur. Lui-même, Jean-Louis Gasset, avait été viré de la Côte d'Ivoire un mois plus tôt en pleine compétition. Et il a réussi à redresser une équipe assez jeune avec des joueurs qui ont quasiment 50 ans de moins que lui, entre guillemets, simplement en leur redonnant confiance. Comment est-ce que toi, tu peux essayer d'analyser ça.
En fait, Jean-Louis Gasset, déjà, c'est la résilience, puisque son expérience et son vécu, ça a été un parcours enrichi par des rebondissements par rapport à sa carrière. Et puis, il a été un observateur aussi en tant qu'assistant dans un premier temps. Après, il a pris les rênes de plusieurs équipes. Donc je pense que en effet, à 70 ans, quand tu arrives, moi, ça me fait penser le profil de Jean-Louis Gasset. Alors, ça me fait penser un peu aux États-Unis aussi à Greg Popovich, donc l'entraîneur des San Antonio Spurs pour la NBA. Mm-hmm. Je pense que c'est des personnes qui savent évoluer avec le temps et la modernité. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas fixés sur, on va dire justement, les temps anciens, mais ils se servent aussi justement de ce qui se passe et de ce qui se passait bien à l'époque. Et de toute façon, on a beau dire qu'il y a des jeunes, il y a la modernité, il y a la génération Z maintenant, les téléphones portables, tout ce qu'on veut, donc avec beaucoup de possibilités d'être déconcentré maintenant, par exemple, d'un point de vue mental par rapport à toutes nos technologies. Mais par contre, justement, ce sont des personnalités qui savent remettre tout simplement l'humain au centre du projet de jeu. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler en préparation mentale de projet de jeu. Le jeu fait le jeu, donc le jeu J-E-U, jouer fait le jeu J-E. Et c'est pas seulement la définition du jeu comme l'ego, c'est tout simplement se sentir bien. Et quand on se sent bien, quand on est détendu, eh ben, qu'est-ce qu'on peut produire comme résultat, comme performance, on peut aller de l'avant. Donc oui, la rupture, on va dire, avec Gattuso et puis maintenant Jean-Louis Gasset qui arrive, c'était la possibilité de ramener un vent nouveau. Les études précédentes sur des changements d'entraîneurs ont prouvé que ça ne marchait que souvent qu'un certain temps et un certain temps court. Mais je pense que du coup, c'est un peu le pari que fait l'Olympique de Marseille, puisque ils ont créé ce moment de rupture avec Jean-Louis Gasset, et je pense qu'ils sont à la recherche d'un entraîneur, en effet, pour la saison prochaine.
Pour cet été, ouais.
Effectivement. Donc, je pense que c'est un pari que Longoria a fait et qui semble salvateur et qui a insufflé une nouvelle dynamique à un effectif avec des joueurs jeunes et des joueurs expérimentés.
Comment tu expliques aussi que des joueurs se basent parfois à un entraîneur où on sent qu'avec Gattuso, on sent avec... c'est pareil côté FC Nantes, on sent que parfois, les joueurs, ils ont envie de jouer que quand ils ont envie. Enfin, c'est un ressenti de supporter ou un ressenti d'observateur. Mais voilà, là, il y a Gasset qui arrive, il remet de la simplicité, mais...
Le côté, les joueurs ont lâché l'entraîneur.
Ouais, je trouve ça tellement facile de faire ça. Alors, ça reste que un côté supporteriste et d'observateur, mais parfois on a l'impression que. Mais parfois, maintenant, la durée de vie d'un entraîneur, c'est un an et demi dans les clubs. Aujourd'hui, il y a Gasset qui arrive sur Marseille, en trois mois, ils sont capables de mettre 5-1, 5-0, etc. quoi.
Moi, je vais répondre sur ce côté-là. Donc, l'énergie, c'est-à-dire ce que tu vas mettre derrière en termes de motivation, détermination, l'énergie, elle va là où tu la focuses. C'est aussi simple que ça, quoi. Je veux dire, ton moteur, si tu mets l'énergie dans ton moteur, ça va y aller. Donc, dans le lien qui est établi entre les entraîneurs et les joueurs, je te rappelle que maintenant, les joueurs ont des dimensions pour certains, notamment dans les grands clubs, des galaxies autour d'eux, qui sont liées à l'environnement économique, avec les enjeux financiers, les agents, les possibilités de contrat ailleurs, multiplication d'interventions peut-être parfois extérieures. Donc ça veut dire que si l'entraîneur n'arrive pas à créer une capacité de lien fort, et quand je dis de lien fort, c'est pas forcément devenir pote, hein, mais c'est tout simplement un lien fort justement dans la relation de travail, dans le management. C'est là le rôle du chef d'orchestre, hein, c'est-à-dire que t'as beau avoir si je reprends l'exemple pour la musique, hein, si t'as le meilleur flûtiste, le meilleur joueur de piano et le meilleur joueur de violon, est-ce que t'arriveras à accorder l'harmonie, donc sans forcément parler d'enjeux financiers? Donc il y a quand même une partition et un rôle à jouer qui est important au niveau de l'entraîneur pour ça. Sauf que c'est ce que je te dis, il y a une dimension telle en termes d'enjeux, d'accord, que ces galaxies qui se multiplient autour font que l'énergie peut vite se focusser ailleurs que sur l'essentiel, c'est-à-dire le projet de jeu.
Olivier.
Oui, en plus, Marseille a eu plusieurs entraîneurs au cours de la saison, dont Marcelino qui entraînait le Villarreal, et que Marseille a éliminé. Donc voilà. Ça aussi, c'est assez nouveau, parce qu'à l'époque, on changeait une fois l'entraîneur, puis voilà, quoi. Mais maintenant, il y a plus les clubs qui n'hésitent pas à changer encore.
C'est le premier fusible qui saute, hein. Enfin, c'est lui qui saute.
Oui. Lyon est exactement dans la même situation.
Oui.
Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ce débat. Merci. on continue cette émission avec Jérémy Bayou. Jérémy Bayou qui va nous parler de ses ambitions pour ce Vendée Globe 2024. Vous allez voir, il a envie d'aller le chercher cette année. Bonjour Jérémy Bayou.
Bonjour.
On vous rappelle que vous êtes skipper Charal et que vous vous apprêtez à vous élancer pour un cinquième Vendée Globe, très simplement à un peu moins de 8 mois du grand départ. Comment, dans quel état d'esprit vous êtes ?
Je suis ultra motivé par l'idée de retourner sur le Vendée Globe. J'ai la chance d'avoir un super bateau avec mon partenaire Charal et d'avoir pu naviguer dessus depuis maintenant 2 ans déjà. Et voilà, je sais que le bateau et moi-même, on est capable de faire un joli résultat sur cette course-là. Donc je m'applique à bien préparer le bateau et puis à bien préparer aussi pour ce Vendée Globe, pour cette saison avant le Vendée qui va être quand même aussi très solide. Donc voilà, motivé et puis en forme, on est en fin de bloc de préparation physique. Là, donc voilà, ça se passe bien, on a hâte de retourner bientôt à l'eau.
Oui, parce qu'avec ce bateau justement qui va participer au Vendée Globe en fin d'année, vous avez déjà participé à des transats dans les mois à venir, c'est ça ?
Oui, exactement. La saison est très dense cette année. À l'image de ce qu'elle avait été en 2016, on a deux transats Atlantique Nord, la transat CIC de Lorient à New York, puis la transat New York-Vendée de New York au Sable d'Olonne. Donc ça sera au mois de mai. On a le petit défi azimut comme d'habitude au mois de septembre. Mmh. Et le Vendée Globe derrière, donc deux transats dans une année plus un tour du monde. C'est vraiment exceptionnel. Et il faut vraiment être bien prêt pour ça, pour que techniquement ça passe et aussi bien gérer la préparation du marin et sa récupération entre les différentes épreuves. Donc c'est un grand challenge. Et voilà, je fais tout pour être prêt pour bien réussir.
C'est sur ce genre d'épreuve où on va peut-être essayer de régler les derniers détails de préparation sur le bateau ?
Ouais, alors cet hiver, on s'est attaché à bien mettre le bateau en mode Vendée Globe, c'est-à-dire avec tous les équipements de backup, tous les équipements de redondance, tous les équipements aussi de un peu de confort pour être capable de tenir 3 mois. Donc le bateau sera mis à l'eau dans cette version-là et on va évidemment tout tester sur les deux transats. Et en particulier pour nous, on a également un gros step en performance avec une nouvelle paire de foils. Donc c'est hyper intéressant d'avoir deux transats engagés dans du vent fort et notamment la transat de retour, c'est avec des vents dominants au portant. Mm-hmm. Où on va pouvoir faire effectivement un ultime test et un ultime comparatif des bateaux dans du vent fort au portant, qui sont les conditions qu'on rencontrera dans le Grand Sud au Vendée Globe. Donc ouais, ces deux transats sont vraiment très très importantes en vue du Vendée Globe derrière.
Alors on rappelle donc pour nos auditeurs que vous avez participé déjà 4 fois au Vendée Globe, 3e en 2016 sur Maître Coq, et puis sur le dernier Vendée Globe déjà avec Charal, vous aviez percuté un OFNI en début de course qui vous avait obligé à retourner au sable. C'est aussi un des enjeux cette année d'avoir entre guillemets cette solidité du bateau qui sera alliée à sa vitesse.
Ouais, alors c'est sûr qu'on travaille là-dessus, hein. C'est sûr qu'on a progressé et sur les différents systèmes pour éviter qu'ils cassent quand on tape quelque chose, et aussi sur la détection des objets qui peuvent traîner dans l'eau. Maintenant, on sait que le 100% de réussite là-dessus il n'existe pas, et que on sait tous très bien qu'il risque d'y avoir encore ce genre d'avarie. Voilà, maintenant c'est pas parce que ça s'est passé comme ça sur le précédent Vendée Globe que ça va se passer pour moi comme ça sur cette année en 2024. Moi je suis concentré sur la course à venir, pas sur les courses passées. Les courses passées m'ont apporté énormément d'expérience et c'est ce que je retiens, et je retiens que ça va beaucoup m'aider et que ça me rassure aussi également énormément avant de me lancer dans mon cinquième. Je suis évidemment pas le même marin cette année que je l'étais sur mon premier Vendée Globe ou sur mes 2-3 premiers. Je sais que je suis capable de faire un podium. J'étais en tête quand j'ai tapé sur l'édition précédente. Je suis capable de gagner des courses en solitaire. C'est vraiment des formats de course, hein, tout seul sur son bateau où j'arrive à vraiment bien m'exprimer. Donc voilà. Maintenant sur le Vendée Globe, on sait tous qu'il faut le petit coup de chance en plus. C'est pas tout d'avoir un meilleur bateau et d'être bon, Il faut passer à travers la goutte et c'est tout ce qui fait l'intérêt de cette course-là.
C'est vrai que vous avez gagné de nombreuses courses en solitaire, notamment la prestigieuse solitaire du Figaro. Finalement, ce Vendée Globe, c'est un peu cette cerise sur le gâteau qui vous manque à votre palmarès ?
Ouais, alors il y en a d'autres, hein, mais c'est sûr que j'ai eu aussi la chance de gagner la Volvo Race en équipage, donc le Tour du Monde en équipage, et c'est sûr que j'aimerais gagner ce Tour du Monde en solitaire qui est la référence. Ouais, je pense que c'est important de rappeler à tout le monde que cette notion de Tour du Monde sans assistance et sans escale, elle est très très contraignante en fait, et dans le sens que c'est un exploit d'arriver à boucler ce Tour du Monde dans ces conditions-là, et encore plus de le gagner. Alors voilà, moi ça sera ma cinquième édition, donc forcément c'est une course qui a marqué ma vie et qui marque ma vie. Pour l'instant sans victoire, et c'est sûr que le jour où je tournerai la page de ce chapitre de ma vie, de ce chapitre Vendée Globe de ma vie, j'aimerais qu'il soit marqué d'une victoire. Donc je travaille pour, en tout cas.
Un mot sur l'épreuve aussi, parce que vous l'avez répété, c'est votre cinquième participation. Cette année, on attend 40 skippers au départ. C'est une épreuve aussi qui a bien changé, qui a bien évolué depuis votre première participation en 2008. Comment vous le voyez-vous ?
Ouais, alors en 2008, on était déjà une trentaine de bateaux. Il y avait 17 bateaux neufs, si je me souviens bien. Donc je suis arrivé vraiment dans une période où le Vendée Globe a fait exploser notre sport. C'est vraiment l'épreuve référence en termes d'océanique. C'est un format qui plaît aux marins, qui sportivement est ultra intéressant, ultra engageante. Qui techniquement aussi nous demande de trouver des solutions avec une jauge IMOCA qui est contraignante et qui nous amène à trouver des solutions techniques pour utiliser cette jauge au mieux et faire des bateaux qui sont le plus rapide possible, le plus robuste possible. Et la combinaison des deux est vraiment pas évidente à trouver. Et puis surtout, c'est une course qui a trouvé son public. Et il y a un engouement monstre autour de cette course-là. Tout le monde l'attend avec impatience tous les 4 ans. Et les partenaires qui s'engagent à nos côtés ne se trompent pas. Hein. Les retombées sont extraordinaires. Et voilà, on a aujourd'hui peut-être le changement au cours des 4 éditions que j'ai pu faire. C'est le côté international qui évolue dans le bon sens à chaque fois. Et c'est vrai qu'on avait des aventuriers qui venaient un petit peu d'autres pays sur les éditions précédentes, et là on a vraiment des marins étrangers qui sont capables de gagner cette course là et ça c'est vraiment intéressant, et ça va donner encore une dimension supplémentaire à cette course qui le mérite largement.
Alors bon, pour terminer cette interview, Jérémy, concrètement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année à venir et ce Vendée Globe?
Alors bah là, une bonne mise à l'eau. On aura un petit mois d'entraînement avant les deux premières courses et voilà que vraiment déjà que ces deux premières transats se passent bien pour nous mettre dans une bonne dynamique pour le Vendée Globe. Et puis bon, voilà, toujours la même chose, hein, de prendre du plaisir sur l'eau, de prendre du plaisir à aller vite sur mon magnifique Charal 2 et voilà, si le plaisir est là et que le bateau va vite, le résultat sera à l'arrivée.
Merci beaucoup, Jérémy. Bonne chance.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Sud Vendée Sport, l'actu de la semaine.
Il y a un club à Fontenay qui envoie des athlètes dans le monde entier aller chercher des médailles. Et ce club, eh bien, c'est le Fontenay Karaté Shotokan. Et avec nous pour en parler, en plateau, Christophe Brondy nous a rejoint. Vous êtes directeur technique et sportif du club. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour expliquer déjà, on va un petit peu dépoussiérer ce club de karaté, si on peut le présenter rapidement, combien de licenciés, combien de personnes qui y travaillent ?
Ce club, c'est 350 adhérents, donc avec un salarié, en l'occurrence moi, mais avec par contre des dizaines et des dizaines et des dizaines de bénévoles qui travaillent autour de ce projet associatif qui est assez important, puisqu'il va des enfants de 4 ans jusqu'à 99 ans, mais voilà, on a développé bien sûr la filière haut niveau avec des sections sportives scolaires et vraiment une filière assez performante qui est un petit peu la vitrine, et pour toute la jeunesse et les jeunes adultes, et bon, c'est quelque chose d'important, mais également toute une politique de sport santé, d'accès au sport pour tous, et donc c'est quelque chose d'assez populaire, ça touche beaucoup de monde sur Fontaine-le-Comte.
Parce que quand on regarde aujourd'hui votre calendrier, votre programme des entraînements, on voit de tout, on voit des choses plutôt adaptées pour les vétérans, sur une pratique plutôt, j'ai envie de dire renforcement musculaire, du moins une pratique plutôt prendre soin de son corps, et en même temps ensuite la partie qui touche les jeunes, qui commencent à avoir, comment dire, ces jeunes qui s'élèvent vers le haut niveau finalement. C'est un vrai tremplin aujourd'hui, ce club de Fontenay, vers le haut niveau et de ce karaté-là.
Oui, vers les équipes de France, en partenariat avec les équipes de France. J'étais avec l'entraîneur de l'équipe de France encore hier au téléphone. Donc on travaille vraiment, on a une réunion encore la semaine prochaine, et on travaille vraiment main dans la main, et effectivement on est pourvoyeur de l'équipe de France. Alors il y a deux spécialités en karaté, c'est le kata et c'est le combat, et on a effectivement cette chance d'avoir de pouvoir placer des gens en équipe de France et kata et combat avec des médailles. Et puis à côté de ça, effectivement, on a le sport santé, parce qu'on a toujours développé le karaté pour tous, et certains anciens commencent à nous dire nous, le soir c'est compliqué, est-ce qu'on pourrait avoir des cours en matinée? Et puis comme tous les clubs de sport, il y a une préparation physique qui se fait, il y a du renforcement, il y a des choses. Et bien on a développé ces créneaux en rendant notamment en mettant en place notamment le matin des créneaux accessibles aux plus anciens, aux adultes aussi qui veulent simplement entretenir leur santé. Et en fait, on est devenu un petit peu pionnier en matière de sport santé avec un programme karaté cancer, etc. Avec plein de choses pour tous âges, pour tout public. Et là, on a vraiment des séances là qui fonctionnent très très fort et un certain savoir-faire.
Alors, pour expliquer donc le kata, la spécialité du kata, on pourrait la décrire comme une démonstration entre guillemets à vide par rapport au combat, la différence où là, bon, c'est assez simple du coup à comprendre le combat. Le kata, c'est plus de la démonstration de ce qu'on apprend, des pratiques finalement.
Oui, c'est nos petits trésors qui nous ont été transmis de génération en génération venant du Japon. C'est un peu les livres du karaté, toutes les techniques sont comprises dedans, mais c'est qu'on va dire quelque part des prestations, des figures gymniques assez complexes, très 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 difficiles. C'est des heures et des heures et des années de travail pour être capable de réaliser un kata qui en plus doit avoir un sens, un vécu, une efficacité en combat. Donc pouvoir retransmettre tout ça, c'est vraiment un travail sur soi très important, un aboutissement. Le faire ensuite en équipe et pouvoir délivrer les applications combat, c'est quelque chose de vraiment fort, mais c'est un travail personnel. Alors pour nos athlètes, mais pour tout adulte, c'est vraiment... C'est vraiment un épanouissement. On a beaucoup, beaucoup d'adultes qui se passionnent pour ça parce qu'il y a le côté culturel derrière. Et puis, ça demande un investissement total de la technique, du corps, de l'esprit, une certaine unité, un travail énergétique. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et une certaine fierté, comme quelqu'un serait fier d'avoir réussi à peindre un beau tableau, être capable de réussir un beau kata et s'aboutir totalement, c'est génial.
Alors, dans le nom du club aussi, donc il y a ce mot « Shotokan ». Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est juste pour susciter l'intérêt, comme là ce matin encore. Alors en fait, c'est le style, il y a plusieurs styles de karaté,
voilà.
Goju-ryu, Shito-ryu, etc. Mm-hmm. Le Shotokan, c'est le plus célèbre dans le monde, c'est
d'accord,
à peu près 80% du karaté. Alors il se caractérise par le fait que, contrairement aux autres qui sont plus des styles internes avec tout le côté respiratoire, etc., celui-ci est bas, puissant, fort et vise vraiment à développer la force physique. Donc il a un côté plus spectaculaire et plus puissant que les autres. Et donc c'est aussi pour ça qu'il est un petit peu plus, un peu plus célèbre et puis un peu plus pratiqué. Donc voilà, c'est notre style, et c'est vrai qu'en le mettant dans le nom, ça nous différencie de Karaté Club. Autrefois on était Karaté Club de Fontenay, et à un moment on a dit on va changer le nom, on va changer le logo, au moment où on a voulu donner dans
une
les
identité.
Années 90, voilà, avec Philippe Remeau, donner une nouvelle identité, une nouvelle impulsion à notre projet associatif.
Dans les années 90 déjà, il y a une vraie terre, on va dire, de karaté. On peut dire le pays de Fontenay a réussi à créer à travers les années comme ça, susciter des vocations et avoir un certain nombre de licenciés. C'est quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, Fontenay, on va pas se jeter des fleurs, mais c'est le meilleur club de Vendée, on va dire, dans cette catégorie-là.
Oui, alors c'est un club qui a 5 ans, qui va bientôt avoir 50 ans, hein, qui vient des années 75-76. Donc, Karaté Club de Fontenay pendant longtemps. Moi, j'ai commencé au Karaté Club de Fontenay. Et puis ensuite, on en parlait tout à l'heure avec la professionnalisation de mon emploi. Et on est passé à un nouveau cap et on est devenu Fontenay Karaté Shotokan. Alors oui, sur le département, c'est depuis 2 saisons une centaine de podiums départementaux. Donc c'est énorme. Hein. Quand on arrive à 60, 70, 80.
Ça fait rêver.
Ouais, ça fait des légions. Hein. Et puis avec beaucoup de résultats surtout, c'est que c'est vraiment, les gamins sont épanouis, sont bien encadrés et performent bien. Et puis en régional, 84 podiums, donc beaucoup, 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 beaucoup de titres. Nos équipes combat sont championnes régionales senior hommes, senior femmes. En kata, c'est pareil. Puis après, beaucoup de performances nationales.
Au niveau national, bien sûr.
Et internationales aussi.
On va en parler juste après. D'abord, Olivier, une question.
Alors, qu'est-ce qui t'amène au karaté? Est-ce que le cinéma... t'as fait aimer ce karaté? Je parle de Chuck Norris, Bruce Lee et Jackie Chan. Est-ce que ça, donner un petit peu une belle image de ce sport.
Alors, ma génération, beaucoup, nous, c'était l'époque de Bruce Lee, etc. Et c'est vrai que le karaté, c'est un art martial, le karaté, c'est un sport qui se développe, mais il ne faut pas oublier ce que vous dites. Donc nous, on a à cœur de pas oublier ça, parce que c'est souvent ce qui a fait le rêve d'enfant, etc. Donc tous les deux ans, on a une folie qui dure 24 heures, on appelle ça les 24 heures de FKS, et on fait un grand spectacle d'arts martiaux, où on se replonge aussi un petit peu dans ce côté culturel, et petit à petit, le dimanche, on a développé tout un projet autour de la culture japonaise, des super-héros, etc. Et on était un peu précurseur là aussi, puis on voit que depuis 5-10 ans, ben, ça se développe dans toute la France et dans le monde entier. Et donc on a dit, on ne va pas faire notre spectacle cette année, mais on va faire ce dimanche-là qu'on va appeler la Fontenay Japan Touch, avec la culture japonaise, le cosplay. Tout le monde se déguise en plus, là je crois que le dessinateur de Dragon Ball nous a quittés, etc. Donc tout le monde se déguise.
Oui, c'est vrai.
Ben, dans tout ce qui est manga japonais, etc. Donc l'univers du manga, du cosplay, des super-héros. Nous on a les super-héros qui vont descendre du plafond, les Batman, les Superman, etc. Donc on n'oublie pas tout ça. Tout effectivement cette culture cinématographique, et on l'a fait vivre fort, donc c'est un gros événement. Là on parle de milliers de personnes qui vont venir à René Cassin, et là on arrive sur cet événement là à ne pas rester sur notre petit monde. On disait 350 licenciés, bon, avec les familles c'est 1000-1500 personnes. C'est bien, c'est un Fondation sur 10.
Oui, ça fait rêver pas mal d'associations quand même.
Voilà. mais quand on parle de la Fontenay Japan Touch, là on sait qu'on peut dépasser ce cap et avoir vraiment beaucoup de Fontenaisiens qui ne sont pas en lien avec le club, qui rêvent à travers ça et faire rêver. Il y a deux ans, on a eu beaucoup de nouvelles inscriptions suite à ça, parce que les enfants se sont dit, mais moi, Spider-Man, etc., les scènes de combat, c'est ce que j'aime tous les jours. Et en fait, c'est vrai que c'est du karaté ce qu'ils font à la télé. Et donc, nous, on essaye de ne pas perdre cette fibre-là, qui est une part de rêve quand même.
Sans vouloir rentrer dans la caricature, mais en plus, au niveau des parents, quand on inscrit un enfant à ce sport, le karaté, quand il est jeune, on se dit qu'au niveau des valeurs que ça va véhiculer, ça aura un impact positif sur lui.
Oui, alors c'est là qu'il y a un petit peu la dualité, c'est que derrière cette culture cinématographique, il y avait une idée de violence et autres, même un peu, allez on va le dire, un peu beauf, un peu etc.
Oui,
bon, je crois que nous, depuis 30-40 ans sur le territoire, à la fois on garde ça et on revendique ça, mais à la fois on s'est vraiment institutionnalisé, on est dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, avec les accueils de loisirs, on a vraiment développé le karaté comme outil d'éducation de l'enfant, mais pas que, hein, aussi des adultes, et effectivement les gens sur Fontenay savent effectivement que le respect de l'autre et les valeurs éducatives et l'épanouissement des gens qui vont pratiquer est au cœur de notre projet associatif. Donc on a réussi à la fois à garder ses origines et à la fois être totalement vraiment dans l'air du temps de la société qui cherche avant tout l'épanouissement et le bien-être.
Alors, il y a aussi parmi ces jeunes qui s'inscrivent, il y a bien certains qui ont des résultats et on va en parler parce que c'est un peu l'actualité récente du club. Tom Courtois, troisième des championnats d'Europe dans la catégorie kata, et Lola Cochard qui a remporté une médaille de bronze sur le circuit mondial en combat à Dubaï. C'est formidable quand on est entraîneur de voir ces jeunes-là qui vont performer au plus haut niveau et qui ramènent des médailles.
Alors, ce qui s'est passé le mois dernier, c'est extraordinaire parce que ça s'est passé en un mois. Donc c'était déjà arrivé qu'au circuit mondial des jeunes, on ait une médaille, c'était Marwan Meknassi au Mexique, mais c'était en 2019. Hein, faut travailler, faut attendre. On l'attendait cette deuxième médaille avec impatience. On a déjà eu deux champions du monde. On a cette chance d'être capable de former des athlètes en équipe de France et des podiums européens mondiaux en kata et en combat dans les deux spécialités.
Ouais, ça, c'est pas rien.
C'est assez rare en France. Donc on a cette chance-là et bon, c'est beaucoup de travail derrière parce que c'est pas facile. Par contre, faire un podium européen avec l'équipe de France en kata et un podium mondial en combat le même mois, un en Géorgie et l'autre à Dubaï, ça y est, la saison, elle est déjà sauvée. ça fera déjà partie de nos meilleures saisons, mais il y a encore des choses qui vont arriver et on a des groupes formidables.
Et alors, je sais pas, vis-à-vis de l'équipe de France, entre guillemets, une petite ville comme Fontenay qui arrive à sortir des jeunes talents comme ça, ça doit être assez peu commun. Je sais pas quel est le profil type dans ces karatékas qui sont en équipe de France.
Ouais, c'est vrai que c'est super pour une ville comme Fontenay de faire partie des grands. Alors, c'est vrai qu'en karaté, Fontenay, c'est pas une petite ville, c'est une grosse ville. C'est un des très très gros clubs. Donc, il y a beaucoup de connexions avec le staff, la direction technique nationale. Là, je vous dis, j'ai été au téléphone encore hier pour la labellisation et la reconnaissance du club comme structure de haut niveau, etc. Donc, Fontenay, ça fait partie des grosses structures françaises régulièrement consultées, associées sur la préparation des championnats d'Europe, des championnats du monde, mais aussi de la politique fédérale. Donc on a cette chance de faire rayonner. C'est aussi notre projet. On dit un club, un territoire pour un rêve partagé. On tient à être très ancré dans le territoire et proposer une pratique sportive et de pratique sport santé pour tous, et en même temps de faire rayonner cette ville au niveau national, voire international.
Christian, une question.
Oui, alors déjà, vous dépendez de quelle fédération exactement ? Est-ce que c'est celle des sports de combat ?
Alors, c'est la Fédération française de karaté. C'est-à-dire au niveau du sport, le ministère des sports labellise et reconnaît une fédération comme étant Fédération française de, et qui permet d'attribuer les vrais titres de champion de France affilié à la fédération qui donne les vrais titres de championnat d'Europe, championnat du monde. On a dans le milieu sportif, tout sport confondu, parfois des fédérations un petit peu dissidentes qui se créent, qui font des fausses Coupes de France, des faux, etc. Non, nous, on est vraiment à la fédération officielle, plus de 250 000 licenciés de la fédération mondiale. Voilà, on est vraiment dans l'institution et dans la reconnaissance institutionnelle.
Et pour qu'on se rende bien compte de la chance qu'on a, nous, à Fontenay-le-Comte, justement, d'avoir un grand club, les autres villes qui sont concernées, les autres grands clubs, ils sont situés dans quel département, est-ce que ce sont des grandes villes ou...
Alors oui, souvent ce sont des grandes villes. C'est alors des grandes villes ou proches des grandes villes. Par exemple, en combat, un des grands clubs, c'est Sarcelles, qui est tout près de Paris, mais c'est la région parisienne. Et alors là, c'est pareil, c'est comme nous, ils ont un équipement 24 heures sur 24. Et là, c'est des clubs de 500, 600, 700 licenciés. Donc oui, Sarcelles. Et puis pareil, en kata, c'est beaucoup aussi Épinay ou Sarcelles, qui sont proches de la région parisienne. Donc oui, on est vraiment sur les... Après, il y en a beaucoup, hein, mais on va dire malgré tout... beaucoup de clubs en France arrivent à faire des podiums nationaux, ou même parfois placer un élève en équipe de France, mais on va dire quand même le gros des résultats, il y a 15-20 grands clubs qui font vraiment beaucoup, beaucoup de résultats. Alors, c'est pas toujours les mêmes en kata, et c'est pas comme là, la semaine prochaine, j'ai une réunion avec les principaux clubs français kata, tout comme des fois, on a des réunions avec les principaux clubs français combat. Nous, on a la chance d'être dans les deux. Donc, on a des fois été dans les 5 premiers. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans les 5 premiers, mais on doit être dans les 10 premiers. Déjà, par contre, si on regarde le volume des résultats, bah là, on est peut-être dans les 3-4 premiers en nombre de podiums. Tout confondu, je pense qu'on est plutôt dans les premières places.
Il y a une synergie aussi qui se crée donc, avec les collèges et les lycées de la ville de Fontenay-le-Comte. On peut lâcher le mot, c'est du sport-études finalement.
Voilà, c'est le sport-études. Alors ça s'appelle section sportive scolaire. Donc celui du collège est conventionné avec le comité départemental de karaté qui est partenaire. Donc c'est un vieil historique des années 90. Ça avait commencé sur Luçon. Et en fait, à Luçon, il n'y avait pas l'internat, etc. Donc le ministère avait dit non, là c'est pas possible. Par contre, Fontenay, il y a une section sportive scolaire au collège en équitation. Il y a les structures, il y a les internats, il y a tout. Et il y a un gros club sur place. Donc, si vous la réouvrez, ouvrez la Fontenay. Alors, moi, j'avais donné des cours à Luçon. Donc, j'ai dit, bon, ben, pas de problème. On y va. On a tous ensemble lancé ça. Et là, ça fait maintenant 25 ans que ça tourne très, très fort avec toutes les équipes du collège Tiraco. Et après, dans la continuité, il y a eu la section sportive lycée qui s'est créée avec le lycée Rabelais. Celle-ci est conventionnée avec le club de karaté de Fontenay, tout ça en soutien, avec le soutien de la fédération. Et donc, il y a une vraie continuité. Donc, on a des jeunes qui viennent de toute la France, souvent au moment du collège, et qui continuent tout un parcours jusqu'au lycée.
Des jeunes qui peuvent venir d'assez loin, spécialement pour cette particularité, justement, d'avoir le karaté en section sportive dès le collège.
Le type de structure qu'on a à Fontenay est unique en France.
D'accord.
Donc là, hier, par exemple, j'avais une fille de Bretagne, qui est venu faire une journée d'immersion au collège et qui a fini avec l'entraînement. Donc là, j'ai découvert les parents qui apparemment rêvaient d'être à Fontenay depuis 2-3 ans. Avant-hier, j'étais avec un professeur de Cahors qui me dit, bon, j'ai appelé la fédération, et bon, apparemment, la grosse structure, c'est vous en termes de sport-études, donc qui va venir. On a une Marseillaise, on a des gens de Normandie, on a des gens de Bretagne,
c'est
on
génial.
A des gens de Saint-Nazaire. Tom Courtois, il vient de Saintes, on a des gens de Toulouse, etc. Donc oui, en karaté, la structure qu'on a et la manière dont on le fait, c'est assez unique. Oui.
On peut dire que Fontenay fait rêver des gens, et ça, c'est important. Olivier.
Alors, tu as employé un mot qui a suscité mon intérêt, c'est le respect. Est-ce que tu ressens ces jeunes qui viennent donc, pratiquer le karaté ont besoin de, justement d'avoir un cadre justement pour exercer ce sport ?
C'est cette chance que j'ai quand même, c'est que le karaté, c'est juste une discipline qui est géniale, quoi, qui est complète. Donc pour faire du sport santé, c'est juste parfait. Pour éduquer les enfants, c'est juste parfait. Donc besoin, franchement, les gamins, ils sont aussi adorables aujourd'hui qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans. Alors peut-être que par contre, ils ont moins de repères, ils arrivent moins à capter leur attention parce que les écrans, tout ça, je crois qu'on le sait tous. Et moi, je m'en rends compte pédagogiquement. C'est pratiquement tous les ans, je me dis, il faut que je change ma pédagogie, il faut que j'évolue sur ma pédagogie, parce que ben, on a des enfants, mais c'est pas eux, hein, on les a mis dans ce cadre-là. Par contre, on a l'avantage, effectivement, c'est aussi dans les valeurs du club, de promouvoir certaines valeurs, et la discipline s'y prête bien. Et à chaque fois qu'on fait le circuit mondial et que j'emmène une dizaine de jeunes, je les emmène pas tout seul, il y a toujours un co-encadrant qui est un parent. Et à chaque fois, le parent qui a pris une semaine de vacances pour tout organiser, m'aider, etc., me dit « mais ils sont vraiment mignons, ils sont vraiment adorables, on en a emmené 60 en Belgique, ils sont vraiment adorables ». Donc je pense que oui, ça leur apporte quelque chose, mais on essaye de véhiculer, mais là quand je dis « on », c'est vraiment toute l'équipe, quoi, hein, au sein du comité directeur, les dirigeants, il y a une bienveillance, parce que vous vous doutez bien que c'est vraiment des groupes, moi j'ai tout un staff qui m'aide, hein, pour les compétitions, pour tout. La bienveillance est à tous les étages tout le temps. Il y a une certaine aussi, une certaine rigueur. Et ben les enfants sont adorables. Et je pense qu'ils sont assez rassurés de sentir que les choses sont cadrées, effectivement, qu'il y a de la bienveillance. Et du coup, on tire le meilleur d'eux-mêmes. Et on se rend compte que les gamins d'aujourd'hui sont aussi adorables qu'autrefois. Ils sont juste dans un cadre un petit peu différent. Et je pense que c'est plus compliqué dans la société. Mais on a cette chance sur Fontenay d'avoir gardé quand même un certain nombre de garde-fous et de valeurs.
Christophe, tu fais une super promotion par rapport à la façon dont le club rayonne pour les jeunes notamment. Et comment tu recommandes, toi, à un adulte, par exemple, plus de 40 ans, plus de 50 ans, de commencer le karaté peut-être, justement, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Parce que bon, j'entends derrière le mot, tu sais, sport santé. Donc je pense que tu peux commencer, en fait, quand même la discipline peut-être un petit peu sur le tard.
Tout à fait. Alors c'est vraiment notre... notre force, c'est que déjà on recommande pas trop, enfin on fait de la promotion, on fait des démonstrations, on va pas trop chercher parce que bon là maintenant c'est plutôt les gens qui viennent et qui savent et qui veulent venir. Mais en fait on a créé ça, là aussi on était pionniers il y a 15-20 ans, quand on a créé le body karaté, ça on dit bon, attends, le body karaté, mettre de la musique, un truc pour les filles, sport de garçons quoi. Donc on était un peu pionniers, maintenant on a 50% de filles, 50% de garçons. On a créé ça en disant, mais là, c'est des femmes qui vont venir faire du sport, donc c'est l'accessibilité aux femmes. Puis maintenant, on commence même à avoir des garçons aussi. Et la plupart des filles qui ont fait du body karaté, certaines se sont mises à faire du karaté ou ont amené leurs enfants, etc. Donc on a créé effectivement des étapes. On n'est pas resté fermé pur dans notre karaté traditionnel ou de haut niveau, etc. On a ouvert. Et de la même manière, petit à petit, on a ouvert des cours en matinée qu'on a appelé karaté. Alors au début, karaté santé, on dit non, c'est pas bien, on va appeler ça karaté bien-être. Puis après, mais Christophe, on voudrait d'autres séances. Et donc on a créé des séances de... J'en parlais avec l'entraîneur de boxe, justement, on partageait un petit peu ça ensemble. Des cours renforcement musculaire, etc. Dans le cadre d'une politique, d'une stratégie. Et en fait, il y a beaucoup de gens, alors il y a des papis, des mamies, qui ne font pas de karaté, mais qui viennent simplement déverrouiller leur corps, muscler leur corps, travailler leur stabilité, leurs équilibres, qui sont très fiers de dire « moi, je suis au club de karaté, donc il y a des champions ». Mais on a après des anciens qui, donc par le biais des séances de renforcement musculaire, parfois, certaines vont se mettre au body karaté, donc vont franchir le pas d'arriver dans un cours vraiment accessible à tous, puis ensuite se dire « je vais commencer à venir en soirée ». D'autres qui vont franchir le pas d'aller vers le cours de karaté bien-être, puis en fait j'ai toujours voulu, j'osais pas, je me sentais pas capable, mais je vois que je me rends compte que j'arrive à faire des choses avec mon corps. Puis après, des cours du matin, commence à se dire « bon, pour progresser là, moi j'ai envie de passer des ceintures, tu crois que je pourrais venir le soir avec ceux ?» J'ai dit « vas-y, viens », et qu'ils viennent le soir. Alors des fois, au passage ceinture, j'ai eu des fois quelques anciens, l'alarme à l'œil, dit « merci de m'avoir accueilli le soir ». C'est des gens qui ne se sentaient pas capables au début, mais en fait on a créé plein d'étapes intermédiaires qui fait que on demande pas, mais en fait, on crée des étapes adaptées à tous. Tout le monde peut faire du karaté, et on inclut, et après, on finit le soir. On fait pareil avec les enfants en situation de handicap. On a une convention avec l'IME, on a un cours spécialement pour eux avec l'IME tous les vendredis matin. Donc, eux, ils sont très heureux, parce qu'ils disent, là, sur le territoire, il y a le karaté et le foot qui fait ça. Et alors, cotisation, c'est symbolique. Je crois que c'est, si on enlève la licence fédérale, ça doit être 10 euros de cotisation. On le fait vraiment pour la bonne cause, mais c'est toute la beauté de notre projet associatif, on est fiers de ça. Et les enfants ont des cours pour eux. Et puis avec les éducateurs de l'IME, petit à petit, on dit, tiens, lui, on pourrait peut-être l'intégrer au cours enfant de Jessica. Lui, on pourrait peut-être l'intégrer à ton cours enfant. Là, par exemple, on a trois qui sont des anciens de l'IME, qui sont dans les cours adultes du mercredi matin, karaté bien-être, qui sont parfaitement intégrés. Certains ont vieilli, ont changé deux, trois fois de structure, mais demandent dans leur aménagement de continuer le karaté. Donc les éducateurs, les structures s'adaptent parce que pour l'enfant, le karaté, il a évolué, il est chez lui. L'an dernier, il y en avait un qui avait fait une petite crise, qui avait fait une petite fugue. Mais au moment où il fait sa petite fugue de l'IME, il arrive au club de karaté parce qu'il se sent chez lui. On appelle nos collègues de l'IME, qui le récupèrent, qui gèrent le truc. Donc voilà, on a plein de choses comme ça, où on fait des dispositifs adaptés. Mmh. Petit à petit, les gens se sentent bien, se sentent en confiance, prennent confiance en eux. Et après, pratique. On a fait ça, par exemple, on a fait le grand tournoi. Ouais, c'était une sorte de Fort Boyard familial avec des épreuves de jeux de karaté, mais aussi de jeux de société, où il y avait forcément câlin de la famille à la fin de chaque épreuve, etc. Tout. Et ben là, on a 2-3 mamans qui nous ont aidés à organiser le projet, qui ont participé avec leurs enfants, qui ont dit, moi j'aimerais bien venir le soir, parce que je vois que je vais me sentir bien dans ce club, qu'il y a de la bienveillance, je me sens chez moi, je me sens bien. Donc en fait, on crée des conditions d'un club très familial, qui fait que naturellement, on y va. Et après, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Mais ça fait des parents qui vont soutenir, et qui sont heureux quand leur gamin est dans le projet associatif, s'investir. On dit, j'espère que mon gamin, on va voir jusqu'où il peut aller. Mais on sait qu'ici, à Fontenay, au club de karaté, il peut peut-être aller très loin. Au moins, il peut rêver. Certains vont même, paraît-il, jusqu'au bout du monde. Donc ça fait rêver beaucoup de générations.
Christophe Brondy, on rappelle que vous êtes directeur technique et sportif du Fontenay Karaté Shotokan. Certains vont au bout du monde, c'est aussi des belles histoires qui se créent, des voyages sur le circuit mondial, au bout du monde, donc on a parlé du Mexique notamment. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est que ces jeunes qui vont sur ces épreuves-là, aussi ils doivent chercher l'argent de leur voyage, c'est aussi une aventure pour eux.
Tout à fait. Alors l'important, voilà, un club à territoire, on en a parlé, pour un rêve partagé, on veut faire rêver tout le monde, faire partager ça avec tout le monde, et dire, tous ceux qui veulent vraiment, qui s'investissent chez les jeunes. Donc là, l'an dernier, on en a emmené 25 en avion en Irlande, donc c'était énorme. Cette année, on en a emmené 60 en Belgique, avec un car, enfin un truc de fou. Donc vraiment tout le monde. Et puis ensuite, alors on a des critères très très stricts, c'est il faut avoir fait un podium en championnat de France ou une finale d'une grande compétition nationale pour rentrer dans le collectif international du club, celui à qui nous, on va donner le droit de participer au circuit mondial.
C'est pas la fédération qui décide de ça?
Non, parce que c'est les clubs qui inscrivent. En fait, le circuit mondial des jeunes et des moins jeunes s'est développé. Ça coûte très très cher. Les fédérations n'arrivent plus à suivre. Moi, ils me disent, mais là, c'est compliqué. Nous, on doit financer les championnats d'Europe, les championnats du monde, les préparations aux Europes, au monde, etc., le circuit mondial. On a besoin de grosses structures comme nous, des gros clubs qui arrivent à mettre en place des politiques et trouver des fonds. La question, les fonds, on les trouve comment et où? Est-ce qu'on dit nos meilleurs, nos 5-10 vont partir sur l'argent de tout le monde et parce que eux vont faire le tour du monde, les autres ne vont plus pouvoir rêver autre? Ça, c'est hors de question.
Bien sûr.
Donc on garde les fonds et on continue à emmener là 60-70 athlètes en championnat de France, etc. Et dans toutes les compétitions nationales, on est un des clubs les plus présents sur le circuit national et international de France. Et par contre, on dit pour eux, vous allez chercher des partenaires, mais par contre, il faut que vous ayez un vrai projet, une vraie ambition, que vous travaillez pour ça, travaillez pour performer, mais également travaillez pour financer. Donc, ils sollicitent les supporters, ils sollicitent leurs familles,
ils font des activités,
des entreprises, et montent des travaux. Donc, certains vont construire, faire des cartes postales ou des boîtes de chocolat qui vont faire un petit peu de porte-à-porte pour gagner des sous. D'autres vont proposer des cours personnels. D'autres vont animer des stages à Fontenay ou même
ailleurs,
dans toute la Vendée. D'autres organisent des repas, etc. Ils apprennent, les jeunes apprennent à avoir un projet, promouvoir leur projet, travailler pour trouver des financements. Je pense que même la radio vous fait pareil. C'est juste l'école de la vie.
Bien sûr.
Et
c'est formateur.
C'est formateur. Et nous, derrière, on travaille comme des fous pour mettre en place tout ça, avec la structure et l'OASO, avec les campagnes. C'est nous qui mettons tout en forme. Donc, il y a un travail énorme. Il y a une part de financement du club qui reste énorme malgré tout. Rien que la Baie Dubaï, ça a encore coûté 1000 euros au club, etc. Et on va... Donc, le club met malgré tout des sous et des efforts. Mais les gens, les donateurs, tous ceux qui soutiennent, voient des gamins qui se retroussent les manches. Pour vivre leur rêve et pour le rendre réel. Et pas des gamins qui se croient tous Kylian Mbappé en disant « Mon club m'a trouvé des sponsors, on nous envoie, ça me coûte rien. » Si, ça coûte toujours quelque chose, il faut trouver des sous. D'accord. Et nous, on passe notre temps à chercher pour tout le monde, y compris eux. Mais vous, si vous voulez encore plus, on vous donne les moyens, mais on vous dit « Retroussez-vous les manches ». Les gamins le font, et là aussi, c'est des valeurs du club.
Bien sûr.
On est très fiers de ça. Et en fait, 10 athlètes à Dubaï, mais avec le Fontenay Karaté Shotokan, en France qui avait autant d'athlètes, autant de structures. On avait même un athlète de l'équipe de France qui nous a dit est-ce que je pourrais venir avec vous, me rattacher à votre groupe parce qu'on est un des rares groupes de France à être capable d'envoyer autant d'athlètes dans le monde entier et de trouver des financements. Mais ce qui est dingue, c'est le travail et l'investissement derrière. C'est moi qui appelle toutes les nuits ma trésorière en me disant les comptes sont bloqués, faut que tu débloques les plafonds. Et il y a plus de voilà. C'est derrière, il y a vraiment.
On n'a rien sans rien finalement.
Ouais, c'est tout le monde travaille comme des fous pour et s'arrache les cheveux pour rendre ça possible.
Olivier.
Alors je voulais avoir un peu ton avis un petit peu parce que le karaté c'est l'art martial le plus pratiqué au monde et pourtant il est absent des Jeux Olympiques 2024 et 2028. Comment tu peux l'expliquer?
On rappelle quand même que Steven Dacosta, français, a été champion olympique à Tokyo en 2021.
Champion olympique et porte-drapeau.
Oui, bien sûr.
Hein, tous les sports de l'équipe olympique, dernière Jeux Olympiques, a dit que ça doit être Steven Dacosta qui porte le drapeau. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, avoir lu que 14 porte-drapeaux de 14 nations étaient des karatékas, parce que ça fait consensus dans le monde entier qu'effectivement, le premier art martial du monde, c'est le karaté. Le plus pratiqué au monde, c'est le karaté.
Devant le judo.
Oui, mais il y a une histoire, mais il y a la part de rêve aussi qu'apporte le karaté, mais c'est aussi l'histoire de l'athlétisme. C'est que même dans les pays pauvres, n'importe qui peut prendre une porte de basket et aller courir. Le karaté, même ceux qui n'ont pas le tatami ou autre, ils peuvent toujours trouver le moyen de s'entraîner, d'apprendre, etc., dans leur grotte ou autre. Enfin, le karaté, ça fait rêver tout le monde, ça peut se pratiquer partout. Le niveau, c'est vraiment le sport le plus universel du monde entier. On était aux Émirats arabes, mais bon, c'était pareil au Mexique. Enfin, c'est un truc de fou. Quand on parle du circuit mondial, c'est 4000 à 4500 compétiteurs par compétition. On est vraiment sur un sport et un développement de fou. Alors, on était aux derniers Jeux Olympiques. Du coup, la France étant un des plus grands pays de karaté, eh bien, la Fédération mondiale croyait qu'effectivement, c'était quasiment acquis.
Pour Paris.
Paris, on y soit. Alors après, bon, c'est tout ce qui se passe. Regardez bien les Jeux Olympiques. Regardez bien Red Bull qui arrive, gros sponsor des Jeux Olympiques. Donc les cinq disciplines qui ne sont pas toujours des sports, mais c'est très bien qu'on ouvre au culturel, tout ça. Le breakdown, tout ça, c'est génial.
Parce c'est des disciplines qu'on appelle additionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le programme olympique, mais elles peuvent être ajoutées à chaque jeu différent.
On était additionnel et normalement bien parti pour l'être. Mais la question, le problème, c'est qu'il y a les X-Games, il y a plein de choses qui sont en train de se développer dans notre société et qui font l'audimat et qui font du business, faut être clair. Donc les Jeux Olympiques, s'ils veulent continuer à se développer ou survivre dans ce monde-là, il faut qu'ils touchent les jeunes, donc il faut des sponsors, Red Bull. Et donc les cinq disciplines qui rentrent, comme par hasard, depuis plusieurs années, étaient sponsorisées par Red Bull. Les athlètes de ces disciplines sont sponsorisés par Red Bull.
Le breakdance, le surf, le skate, l'escalade.
C'est fort parce que derrière, c'est des sports aussi où on sait qu'on va toucher des jeunes.
Bien sûr,
qui vont,
bien sûr.
Voilà, etc. Et faire l'audimat et toucher. Donc, bon, on est loin des valeurs olympiques. Mais alors que nous, par contre, karaté, effectivement, on cochait toutes les cases. Donc, à la fin, mais même la ministre des Sports, même enfin tout le monde a dit mais nous aussi on est scandalisés qu'il n'y a pas le karaté. Ils ont fait des lettres au comité olympique. Les non, trop tard, c'est comme ça, vous avez voté. Et bon, c'est un peu. Nous, ce qui est triste pour nous, c'est que ce soit Tony Estanguet qui ait porté ça pour le comité olympique, parce que Tony Estanguet, c'est un kayakiste dont sa discipline a failli disparaître, et tous les sports, dont le karaté, tout le monde a soutenu le fait qu'il reste, parce que, en disant, mais moi, mon sport. Donc là, on nous dit, il n'y a plus de place, je crois que lui, il a fait rentrer une de ses disciplines dans son sport. Donc là, on est sur des trucs, mais bon, on le sait tous. C'est pas ça qu'on veut voir sur les Jeux Olympiques. Ce qui nous intéresse, c'est derrière la formidable aventure humaine qu'il va y avoir. Donc c'est vrai qu'on est un peu triste. Mais on joue le jeu. Moi, je suis toutes les semaines dans les écoles bénévolement à faire des cours pour promouvoir les Jeux Olympiques. On va participer le karaté avec la ville aux Jeux Olympiques. La place du karaté institutionnel à la reconnaissance olympique, malgré tout, et la reconnaissance de haut niveau. Donc, on coche toutes les cases. Et de toute façon, nous, on va se développer, on existe. Moi, je vais dans le monde entier et je vois le karaté, c'est quelque chose de fou. Donc, c'est pas gênant pour nous. C'est un peu triste, plus pour les Jeux Olympiques. Ça va pas nous empêcher de nous développer. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit le faire. Du coup, on perd certains crédits olympiques.
Bien sûr.
Donc, des clubs comme nous qui sont innovants et qui trouvent des nouveaux systèmes de. Bah, le DTN, la semaine dernière, je l'avais au téléphone, il dit bah, bravo pour ce que vous faites, parce que vous arrivez à trouver des solutions, parce que nous, ça devient dur. Et vraiment, bah, c'est formidable que vous arriviez à faire ça avec vos jeunes et trouver des financements.
Comment est-ce qu'on arrive à faire exister le karaté face à des sports de combat très concurrentiels, le judo principalement, parce que c'est un sport qui est aujourd'hui. Très pourvoyeur de médailles, très médiatisé. Est-ce que, alors je ne veux pas parler de concurrence, mais comment est-ce qu'on va emmener un enfant plutôt au karaté ou plutôt au judo, peut-être même le taekwondo sur ces disciplines de combat?
Non, il n'y a vraiment aucun problème. Le judo, surtout en France, c'est vraiment une super discipline. Je crois qu'ils doivent être 500 000 avec effectivement beaucoup de résultats. Nous, karaté, on est 250 000, on a aussi beaucoup de résultats. Et ça, bon, ça se passe très bien. Enfin, l'histoire, quand même, dans l'histoire, c'est que le maître de judo a ouvert tous les dojos de judo au karaté au Japon pour que le karaté puisse se développer. Donc, ça, non, non, ça s'est toujours très bien passé. Il y a de la place pour tout le monde. Regardez Fontenelle-Comte. Fontenelle-Comte, il y a un club de judo tellement super. Et un club de karaté qui devenait tellement super qu'à un moment, quand on a deux clubs de plus de 300 licenciés, eh bien du coup, c'est pas possible ça dans une petite salle ou un petit dojo, ça ne fonctionne pas du fait de l'envergure de ces deux clubs. On a un dojo spécifique au judo kendo qui rayonne notamment de par le kendo et un dojo spécifique au karaté parce que là ça peut pas fonctionner dans un dojo. On parle de beaucoup de monde, de beaucoup de cours, de très 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 grosses associations. Bah, regardez sur Fontenay. Une petite ville de 15 000 habitants, il y a deux énormes clubs d'arts martiaux et les deux se portent très bien. Puis il y a un club de boxe qui se passe très bien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, on est venu me voir en me disant hey Christophe, t'as vu, il y a une salle de sport qui ouvre. Est-ce que ça vous fait concurrence ? Ça ne fonctionne pas comme ça. Christophe, il y a une deuxième salle de sport. Christophe, il y a une troisième. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le sport, on aime et puis on aime. Plus on vient en consommer, en pratiquer, etc. Les entreprises ont compris ça depuis longtemps. Hein. Il n'y a aucune entreprise qui veut dire « Oh, il y a un concurrent qui ouvre ». Et quand ils disent ça, c'est pas vrai. Ils savent très bien qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Si tout le monde propose quelque chose, tout le monde peut se bonifier. Donc non, le judo, le karaté, la boxe, tout le monde vit très bien ensemble. L'important, c'est la force du projet associatif. Et si tout le monde apporte quelque chose, ben, tout le monde trouvera un écho où personne ne se marche dessus.
Et ce qui est formidable, c'est vrai, c'est qu'il y a cet engouement pour justement ces sports de combat, c'est peut-être aussi quelque chose qui s'est développé ces 10-15 dernières années où les parents finalement mettent plus facilement leurs enfants à ces sports-là. C'est vrai qu'à l'époque, finalement, quand on était jeune, on avait le foot et puis peut-être éventuellement un autre sport, mais la question se posait assez peu. Là, aujourd'hui, l'enfant, quand il arrive, il a le choix entre plein de sports et peut-être qu'il va venir plus instinctivement dès d'ailleurs 4-5 ans s'inscrire au club de taekwondo ou judo ou de karaté, pardon.
Voilà, tout à fait. Eh ben, effectivement, alors, moi, j'en suis un exemple. Hein. Moi, je voulais faire du karaté. Mes parents m'ont dit non, ça coûte trop cher, 500 francs. Tu vas faire du foot, quoi. L'année d'après, pareil, bon, je suis resté au foot. J'étais pas bon au foot, en plus. Et puis, finalement, ils ont accepté de me mettre au karaté. Donc oui, c'était pas accessible à tout le monde financièrement et même dans les mentalités. Les mentalités ont beaucoup évolué, la société a évolué. Après, il y a eu des politiques publiques aussi. On l'a bien vu après le Covid, quand il y a eu des aides à la prise de licence, on a vu énormément. Alors, et mes collègues en judo de France et mes collègues en karaté ont dit, mais là, au lendemain du Covid, il y a eu des aides à la prise de licence. Et on a senti que beaucoup, beaucoup de gens qui disaient, mais là, c'est important que mon enfant fasse du sport, il bouge, ils l'ont vécu avec le Covid. Et en plus, on a une aide financière. On va peut-être lui faire du karaté, du judo, etc. Des disciplines qu'on sait que, en plus, il y a une discipline un peu individuelle qui est très éducative. Alors, les sports co apportent énormément aussi à leur manière et pour la vie en société, c'est super important. Mais on a senti que beaucoup de gens se sont dit, là, je peux, parce qu'en plus, j'ai des aides. Et après, il y a la réputation aussi des clubs et le nombre d'années qui sont sur le territoire. Donc nous, bon, c'est vrai que sur Fontenay, moi, j'ai pratiquement que les enfants, des enfants que j'ai déjà eus, etc. Enfin, tout le monde à Fontenay a eu un moment, un membre de sa famille ou connaît un tel qui connaît un tel qui fait du karaté. Donc, on a aussi une petite réputation. Donc non, ça se passe bien. Il y a effectivement beaucoup de monde qui vient.
Et alors, sur les valeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des choses dans certains sports collectifs, hein, le foot pour ne pas le nommer, où même alors dans nos campagnes, on est plutôt épargnés, mais on voit, sans forcément parler de la violence, mais au niveau des éducateurs, des parents qui peuvent être un petit peu véhéments, etc. Les sports comme le karaté, justement, viennent apporter aussi un peu ce cadre et ces valeurs qui sont importantes dans le monde aujourd'hui où on vit.
Ouais, mais moi, je veux relativiser. J'ai mon grand-fils qui a fait du foot à un moment. Et donc, il a fait les entraînements de foot au Fontenay Foot Vendée, là, au Vendée Football. Et bon, comme tout parent, des fois, je suis venu le voir. Et moi, j'ai vu tous les gamins qui ne me connaissaient pas. Ils ont tous fait le détour pour me serrer la main. Tous les enfants serrent la main, etc. Il faut faire attention parce que c'est vrai que si on reste devant BFM ou CNews tous les jours, on dit mais le monde va vraiment mal. Et c'est vrai que le monde va mal. Maintenant, si on est vraiment en prise avec le territoire, on se dit mais en fait, tous les gens sont adorables. Quoi. Et ce qu'on voit à la télé, c'est pas toujours la vérité.
C'est les 5% restants.
Les débats médiatiques, les choses qu'on voit à la télé, les mauvais gestes, C'est pas la réalité du travail des éducateurs, y compris le foot. Des fois, on colle une image au foot. Non, il y a des éducateurs formidables qui essayent de promouvoir des valeurs. Alors, c'est vrai que nous, tous les arts martiaux, le karaté, le code moral, on est attaché à ça. Oh, il y a aussi, je vous rassure, il y a aussi des profs de karaté qui font n'importe quoi, ou des dirigeants qui disent n'importe quoi. J'ai des gamins qui sont allés en compétition, qui n'étaient pas sélectionnés. Ils sont allés, ils se sont sélectionnés. Ils étaient 5-6. Là, on l'a fait sans encadrement sur cette compète parce qu'on est vraiment partout. Les gamins, ça s'est très bien passé avec les parents. Les parents m'ont dit, oh, y avait un coach là, mais tu aurais vu ce qu'il disait à ses enfants. C'était absolument n'importe quoi. Tout comme j'ai des arbitres qui viennent me voir en disant, bah, vous, au moins, on est content du discours que vous avez. Donc, il y a du bon et du moins bon partout. Ça, c'est, je pense qu'il faut faire attention à pas coller d'étiquette.
Bien sûr.
Et après, ben effectivement, il y a la question de la place des parents, mais c'est ce qu'on essaye de transmettre et c'est important, mais c'est vrai que c'est pas gagné. Par contre, c'est un combat.
Christian.
Est-ce que tu penses que justement la place de l'argent par rapport justement, tu sais, au projet Mbappé dans le foot où on va dire t'as des parents qui disent leurs enfants bah c'est bien, ça peut peut-être sauver, on va dire entre guillemets, notre famille d'aller gagner un contrat pro dans le football, et toi j'entends dans les valeurs de ce que tu mets en place l'argent comme un moyen, et finalement au centre du projet il y a le jeune qui se donne les moyens par lui-même et qui va chercher des financements. Justement, comment vous orientez un petit peu justement cette notion d'argent, non pas dans une quête de pouvoir, mais tout simplement de moyens et de possibilités de s'accorder des chances, par exemple de voyager, d'aller à Dubaï ou de faire voilà, de finalement d'accéder à son rêve, quoi.
Ben oui, tout à fait. Ben il voit que ça tombe pas, effectivement. Et mais bon, on sent bien que derrière, il y a le côté, le danger, c'est le discours des parents. D'accord ? Et ben alors, moi, je peux vous le dire, hein, moi, je le vois, le rôle des parents est essentiel dans la performance des athlètes, dans le projet des athlètes. C'est-à-dire que dès qu'on voit des comportements déviants, pour pouvoir vouloir gagner plus, pour pouvoir que leur enfant gagne plus, peut-être, ça marche pas à la fin du truc. Ça marche pas. Ça ne gagne pas. Tiens, j'ai eu la semaine dernière encore. J'avais un parent qui me disait là là, comment c'était mon enfant, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour l'aider. Mais dites rien surtout. Ne dites rien. Laissez-le. Il faut qu'il s'approprie lui-même son projet. Et nous, derrière, effectivement, on y met des valeurs. Oui, mais on voudrait l'aider. Ne dites rien. On vient de faire un perso là. On vient de faire un perso où la clarté du projet et des attitudes. Enfin, on parle d'une enfant de 13-14 ans. Je dis, bon, ben, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as demandé un perso, mais c'est... Tu me l'as demandé hier, parce que une de tes copines en avait demandé un, que tu voyais qu'une autre copine, tu dis, ouais, c'est bien. Est-ce que tu en voulais vraiment un? Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pas pour toi? Donc, d'entrée, on a eu un discours de vérité qui va après avec ce qu'elle produit sur le tatami. J'ai dit, on a eu un discours de vérité entre l'enfant en construction et l'athlète, le coach, qui est aussi un petit peu coach mental par rapport à ça. Discours de vérité, elle est en train de rentrer dans une démarche personnelle et on ne s'est pas menti là, on s'est dit les vérités, alors n'intervenez pas là-dedans, ne dites rien, laissez faire. Ben, la gamine, elle me redemandait un entraînement encore cette semaine, et là, elle fait des entraînements, mais elle est en train de tout tuer parce qu'on a une génération de folie, on sent qu'elle a envie de basculer en disant non, mais moi je veux en être là,
il s'entraîne de
cette aventure. Donc c'est effectivement la place des parents. Alors on a eu une chose, c'est le Covid. Ben, le Covid, l'accès des parents n'était pas possible. Et donc, on avait créé des circuits sanitaires, etc. Il n'y avait que les enfants. Et chez les jeunes athlètes, on a vu des choses totalement différentes. On a vu des comportements à l'entraînement en compétition de l'enfant bah, qui était heureux d'être là finalement que pour lui, pour son projet à lui. On a vu des changements de comportement sur le tapis. Et donc, en fait, depuis le Covid, on dit que les parents peuvent venir 5 minutes avant, pour 5 minutes à la fin, pour voir leur enfant évoluer, prendre les informations, échanger, etc. Mais maintenant, les entraînements, c'est un peu plus sans la présence des parents. Et on fait très attention à cette distance. Alors, c'est particulier parce qu'on a un projet associatif fort. Et les parents sont très importants pour le faire vivre, pour le fonctionner. On fonctionne tout avec les parents, main dans la main avec eux. On a besoin d'eux. Enfin, nous, on a un club qui emmène 2 ou 3 bus par compétition nationale. Enfin, il faut des chauffeurs, des encadrants. Et le rôle des parents, la présence est très importante, mais à la juste place. Et donc, on a bien progressé sur cette distance.
Et ils le comprennent, les parents, ça ?
Eh bien, en fait, alors là, moi, ça, c'est les années qui parlent. Je n'explique plus. Avant, je disais rien, ou je me braquais, ou je recadrais, ou je faisais... Je dis plus rien. J'essaye d'être à ma place, à la bonne place, que d'apprendre à l'enfant à être clair avec lui-même et pour lui-même. Et c'est une question de distance, comme en combat, c'est une question de distance. Et quand le parent n'est pas tout à fait... Parce qu'il cherche sa place, il veut aider son enfant, il veut accompagner. Il y a des parents qui sont, vont être trop loin. Attention, faut, la présence des parents n'est pas un problème, c'est une obligation. Il faut que le parent soutienne le projet de son enfant, suive, s'informe, s'intéresse, etc., participe. J'ai des parents, moi, qui sont parfois très loin. J'en ai qui sont à Marseille, j'en ai qui sont bien à Saintes, j'en ai qui sont au Sable d'Olonne. Et malgré tout, qu'ils soient très présents, intéressés par le projet de leur enfant, ils ont un rôle clé, en fait. Quand l'enfant, il performe, c'est aussi grâce à cet environnement qui est bienveillant, mais qui respecte la bulle coach et athlète. Donc, en fait, à chaque fois que je vois que le parent n'est pas tout à fait à sa place, je dis plus rien. Parfois, je prends l'élève, je vois le parent, je prends l'élève, je l'éloigne et je parle avec lui, etc. Et en fait, les parents, ben, ils sont intelligents. Ils veulent juste bien faire comme nous tous, parents. Mmh. On essaye de bien faire, puis des fois, on se dit, j'ai fait trop, j'ai fait pas assez. Moi-même, en tant que père, ma femme, en tant que mère, on n'est pas toujours bon. On essaye de trouver la juste distance. Bien sûr. Et en fait, en se positionnant et en prenant de la distance en revenant, les parents se rendent compte eux-mêmes. Et en fait, les parents sont formidables et trouvent petit à petit la juste place. Donc, ce qui est important pour l'entraîneur, c'est de prendre la distance qu'il faut. Et à un moment, voilà, le parent dit, tiens, il ne me répond pas, ou tiens, il s'est éloigné, tiens, il a le numéro d'un enfant. Oui, là, t'es trop près, là, t'es dans la bulle. Et là, la bulle, il ne faut pas que l'enfant, quand il fait son combat, il ne doit pas regarder ses parents dans les gradins, quoi. Il doit être concentré sur les consignes, sur l'adversaire, sur la tactique, sur le projet. Donc, mais simplement par un bon positionnement, on aide les parents à trouver, déduire le bon positionnement. Et là-dessus, on a beaucoup progressé. Ça se passe très, très, très bien avec les parents.
Alors, pour terminer cette émission, on va évoquer l'aspect mental, peut-être, avec Christian, notamment parce que on sait que Christian, tu
connais bien le sujet.
Voilà, il connaît bien le sujet. Et c'est vrai que le karaté, sur l'aspect respiration, je pense notamment mental, il doit y avoir un aspect dans la préparation, une part dans la préparation qui doit être considérable.
Énorme.
Est-ce qu'on peut dire que ça peut être... aussi important que la technique qui est apprise à l'entraînement ?
Ouais, mais même plus. Ben moi, je vais vous donner l'exemple. Alors, on parlait du rôle de parent. J'ai mon fils en ce moment qui tourne très fort, mais qui fait le circuit mondial, qui a des capacités importantes. Et ben, par exemple, donc, quand il a fait le circuit mondial, quand il a fait les critères, alors il a fait les critères, il a fait la finale, mais parce que on a pris volontairement la compétition nationale à la rigolade pour qu'il se détende, pour qu'il souffle. Et là, bah, du coup, il a fait finale. On prenait vraiment ça à la rigolade, c'est en fait pour pas qu'il se mette de pression parce qu'il avait ce souci-là. Quand il a fait le circuit mondial, les deux premiers circuits mondiaux qu'il avait fait, ça s'est très mal passé. Il était bloqué au niveau du respiratoire, au point même pendant sa prestation, d'avoir presque des renvois de stress. Il ne respirait pas. Alors, il y a un côté technique à prendre les moments, il doit se relâcher, etc., respirer au moment de la prestation, du kata, etc. Mais il y avait aussi tout un discours. Et un travail mental où il était aussi dans le déni. Non, c'est pas vrai, ça s'est bien passé. J'ai dit non. Ben, où il n'acceptait pas ça. Et là, ça fait deux circuits mondiaux où il a travaillé sur sa respiration, apprendre à respirer un petit peu mieux et déjà à respirer tout court parce qu'il ne respirait pas, ça peut pas fonctionner. Et puis, et les deux dernières compétitions à Dubaï et à Venise, il a su un peu avant me dire. Papa, je me sens un peu stressé, je me sens un petit peu bloqué. Alors, j'y vais déjà rien que le fait que tu l'aies dit. Alors, on a fait un ou deux exercices respiratoires, mais un petit peu, même presque bidon, mais juste pour dire, mais respire déjà, reprends conscience de ton corps. Et juste ça, et là, il a été super performant à Venise. Il passe un tour, alors c'est juste la moitié qui passe un tour. C'est-à-dire que quand on dit passe un tour, qu'il passe à la deuxième vague, il rentre dans les 60 premiers mondiaux quoi, sur cette compétition. Donc là, c'est énorme. Et là, il a été encore très performant. Il vient de faire champion régional dans sa catégorie en kata. Il vient de faire champion régional dans la catégorie surclassée. Et après, il a mis les gants le week-end d'après. Et il a battu tout le monde en combat. Simplement parce que, ça y est, il est capable de se détendre, de respirer. Et aussi de dire et d'identifier, ben en fait, je suis un peu noué, je suis un peu bloqué par le stress, je ne respire plus. Ça faisait un an que je ramais, que je lui disais, mais là, il y a un moment, on va arrêter le circuit mondial. Si t'es bloqué au point de ne pas pouvoir le... Donc là, maintenant, soit tu reconnais qu'il y a un petit souci et tu travailles sur ta respiration, tu te détends et tu peux en parler. Et là, on va débloquer les choses. Soit tu le reconnais pas et là, on va arrêter les frais, quoi. Et là, maintenant, ça y est, c'est débloqué. Et il est, en ce moment, il est super fort.
Eh ben là, tu exprimes, en fait, ça fait partie complètement de votre fonctionnement au niveau de la discipline. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah, personnellement, en tant que coach certifié en respiration, justement, aujourd'hui, c'est peut-être l'atout numéro un qui est développé dans de très, très nombreuses disciplines. Donc, on a vu des exemples récemment avec Świątek au tennis, avec Haaland au foot. Donc, il y a des promotions justement, on va dire, sur certaines stars, certaines vedettes sur l'approche respiratoire qui, dans de nombreuses disciplines, aujourd'hui est l'atout numéro un parce que sous-exploité. Et par exemple, il y a des études aujourd'hui qui prouvent dans le foot que chez les jeunes de moins de 21 ans, en gros, il y a 9 joueurs sur 10 qui, malgré leur capacité, leur compétence, leur endurance, ne savent absolument pas respirer. Et leur premier vecteur de développement, c'est de se réapproprier la conscience du corps par la respiration. Donc, c'est-à-dire dans un état d'être pour mieux faire. Et ça, aujourd'hui, même moi personnellement, du coup, j'ai de nombreuses demandes par rapport à cette approche-là. Qui est mais prépondérante et essentielle parce que dans l'environnement stressant, multiconnecté, avec quasiment une angoisse, là tout à l'heure on parlait des informations et aussi des angoisses des parents qui se transmettent sur les enfants, dont les enfants par mimétisme ont reproduit la respiration des parents. Donc si les parents sont angoissés, bah, les enfants vont reproduire exactement le même schéma. Et ben tout ça, en fait, ça se retravaille, ça se resynchronise. Et c'est vrai que là, d'ailleurs, les champions aussi cyclistes ont réappris à respirer dès leur plus jeune âge pour avoir des capacités respiratoires beaucoup plus impactantes dans leur vie en termes d'enjeux de santé et de performance.
Ça se travaille à l'entraînement. Enfin, on peut apprendre à respirer comme ça, mais quand on enfin, c'est impossible de reproduire le jour de la compétition aussi. C'est ça qui est difficile.
Des petits exercices respiratoires, c'est tout bête, mais c'est déjà, effectivement, il y a l'étape de prise de conscience de son corps, des mécanismes des fois un peu mentaux qu'il faut que tout se bloque, etc. Mais moi, d'expérience, je l'ai vécu parce que je fais ça maintenant depuis 30 ans, et ça, c'est depuis 5-10 ans. Quand l'élève ne met pas en place la bonne, on dit voilà, tu devrais essayer comme ça, tu devrais essayer comme ça, utilise ton cou, etc. On est dans le technico-tactique et on a raison, mais il le fait pas. Il le fait ou il le fait qu'à moitié, ou il le démarre trop tard, ou. Et en fait, l'entraîneur, donner les réponses technico-tactiques, ou donner, comment dire, les impératifs mentaux, lâche pas, etc., donne-toi à fond, accélère, etc. Mais ça ne sert à rien puisque tout est bloqué. Et moi, depuis 5 ou 10 ans, il y a plein de moments où je connais la solution parce que ça y est, je commence à connaître un petit peu la cuisine maintenant. Mais je ne la dis plus, ça ne sert à rien. Je lui dis, respire, détends-toi. Je prends les épaules, je monte les épaules, souffre. Et là, ça devient tellement simple que c'est même plus qu'il va mieux comprendre les consignes. Il n'y a même plus besoin de lui donner les consignes. C'est une évidence pour lui. Il s'est juste détendu et redevient intelligent. Et là, on redevient coach. Pour pas lui dire tout ce qu'il a à faire, mais simplement pour l'accompagner, mais à nouveau il se remet en mouvement, et parfois pour un coach simplement lui dire respire, mais encore faut-il effectivement avoir un peu travaillé la respiration, compris que des fois ben, tout est bloqué, et l'accepter, pourquoi je me bloque, à quel moment je me bloque, qu'est-ce que je peux faire, comment je respire, donc effectivement,
C'est valable pour tout.
Je conseille à tous les athlètes de travailler sur ça. Et puis quand ils n'ont pas les outils ou que le coach n'a pas l'outil, bah effectivement, c'est comme quand on veut réparer un tuyau. Moi, je préfère appeler un plombier parce que je ne suis pas très bon. Bah autant appeler un spécialiste qui va peut-être débloquer un truc tout simple qui va aider l'athlète à performer.
L'idée, c'est de ne pas forcément non plus attendre qu'il se passe quelque chose. Alors, on ne peut pas tout anticiper, mais respirer, c'est tellement la base. Et j'ai envie de dire que dans le positionnement pour lequel tu parlais avec les parents, entre autres, parce que du coup, il y a aussi le stress des coachs, hein, c'est normal. Et des parents, pour qu'ils puissent trouver leur place, j'ai envie de dire, on peut aussi leur donner l'indication respirer. C'est tout aussi bien pour les parents que pour les enfants et les coachs. Quoi.
Alors, on parle de performance, mais en fait, on a parlé tout à l'heure de sport santé, d'accord. Ben, l'histoire aussi, c'est que on me demandait ces sections un peu sport santé, et moi, karatéka, à prendre des coups de poing tous les jours, à donner, à lever la jambe bien haut tous les jours. Je commençais à être cassé aussi, donc je vais développer ça. Et alors là, ça a été les 10 premières années étaient compliquées parce que je leur ai fait faire tout ce qu'il fallait, et j'ai vu des anciens, certains qui n'avaient jamais fait de sport. Mais à la fin, progresser, être mieux que moi. J'ai dit, mais là, ils sont en pleine forme, et moi, je suis cassé de partout. J'arrive à leur faire faire des choses que moi-même, je fais plus. Et c'est quoi le problème ? C'est qu'en fait, j'entraîne. En entraînant, j'explique. En entraînant, je parle. En entraînant, je donne les consignes, les bonnes consignes. Respirez, tenez-vous droit, etc. Je donne. Mais tout le temps que je parle, quand je fais le geste, moi, je ne respire pas. Et donc, tous les cours santé, avec tous les exercices que je leur fais faire, qui leur font beaucoup de bien, qui normalement devraient faire du bien, je dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Et si je suis tout seul sur un jour de repos, je fais la même séance et je respire, ah là, je sens le corps qui se relâche et je sens les bienfaits pour le corps. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre. Je dis, mais pourquoi est-ce que tout le monde, ça va mieux, ils progressent tous? Et moi qui fais des cours, alors c'est vrai que j'en fais 10 par jour, donc mon corps aussi, il doit subir, c'est, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de sport. Mais c'est aussi parce que quand j'enseigne, je parle. Et donc, quand je parle, je ne respire pas. Et donc, je peux faire les meilleurs mouvements du monde. Si je ne respire pas, ça ne m'apporte pas de bienfait, voire même, je les fais bloquer, voire même, ça peut me desservir personnellement. Mais après, moi, c'est mon job. Je dois animer, je dois parler, je dois orienter. Et donc, on ne parle pas que de performance. On parle aussi de bien-être et de santé. Accompagner les efforts musculaires ou les relâchements, les déverrouillages par un travail de respiration, ça change tout. Et moi, je suis témoin parce que quand je le fais, quand je l'enseigne, je ne peux pas respirer. Ou si je me mets à bien respirer, il y a un petit vide dans le cours parce qu'on se dit, le prof, il s'occupe de lui, il ne s'occupe plus de nous. Quoi.
Olivier, une dernière question.
Alors moi, je voulais revenir justement à l'importance du sport pour les jeunes. Moi, j'étais 30 ans de l'autre côté du miroir. Et je sais que la délinquance des mineurs, c'est un problème, très grave problème en France. La limite est vite franchie entre le droit chemin et la délinquance. Et pour moi, le sport, c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes. Ça permet déjà de canaliser leur énergie, leur violence, et en même temps, le respect de l'autre. C'est un peu le problème aujourd'hui des jeunes, c'est qu'il n'y a plus le respect de l'autre. Et le sport, justement, apprend toutes ces valeurs à avoir le respect de l'autre.
Alors, je peux donner une anecdote, parce que voilà, j'ai 30 ans derrière, c'est une anecdote qui date de 20 ans, donc personne ne se reconnaîtra. Comme je vous dis, bon, bah, on envoie des contingents un peu partout en France et on est un peu les seuls à faire. Alors, ça nous coûte très cher, des gros budgets, hein, c'est 120 000 euros le budget du club, dont à peu près un tiers qui va pour le projet compétition. Et les parents apportent une participation, hein, donc une participation... qui était de 40 ou de 50 euros pour un déplacement national, puis après on prend tout le reste en charge, etc. Et j'ai, il y a très très longtemps, j'ai des parents qui me disent « Oui, mais là, mon fils, il commence à bien tourner, et ouais, mais sortir 40 ou 50 euros, 5 ou 6 fois, on pourra peut-être pas tout faire. » Il n'y a pas de problème. Pas de problème, vous ferez ce que vous pourrez, puis bon, il a fait un peu moins. Mais il a fait un peu moins, le jeune. Mais du coup, il est sorti un peu plus. C'est quand les autres faisaient du sport et avaient un projet de sport auquel ils devaient s'en tenir et avoir une hygiène de vie qui va avec, dormir, etc. Et partir avec des éducateurs sportifs et partir avec des jeunes sains qui veulent aller dans le dépassement d'eux. Bah, du coup, ils étaient plutôt un peu dans le sud-vendée, aller faire la fête du samedi soir et autres. Et à un moment, on m'a même dit qu'il y avait un petit peu de drogue, de choses comme ça, etc. Ouais, mais qu'est-ce qui coûte plus cher à la fin? C'est que, est-ce qu'il faut, entre le gamin, les parents qui vont investir un peu d'argent pour que son gamin fasse du sport, se dépasse et se sublime et s'investisse sur un projet long terme, ou le gamin qui a plus le projet, ben, du coup, il va aller dépenser quand même les sous, mais dans des choses moins bien, des choses moins belles, en fréquentant des jeunes qui sont moins dans une dynamique de projet. Et à un moment, j'ai même le gamin qui me dit, mais moi, tu sais, Christophe, dans l'histoire, il n'y a que le karaté qui pourrait me sauver. En gros, ben, quand j'étais avec toi, dans ton collectif, j'étais plutôt dans une bonne chose. Et là, bah ouais, on fait la fête, hein, c'est la belle vie. Mais en fait, on se perd un peu, on n'avance plus là. Et donc après, c'est vraiment des choix. Et quand on a fait le centre de karaté de la salle Bel Air, quand on l'a inauguré, c'est le président de la Fédération française qui est descendu. On parlait du rayonnement du club. On a dit, waouh, un président qui descend pour un club. Mais bon, on a quand même un club reconnu. Et qui disait, messieurs les élus... 1 euro investi dans le sport, c'est 10 euros de moins dans la délinquance. Et voilà, n'oubliez jamais, ouais, ça coûte, non, c'est un investissement sur la jeunesse.
Bien sûr.
Et ça, c'est
important. Et bien, sur cette belle anecdote, et bien on va se quitter. Merci beaucoup, Christophe Brondy. On rappelle que vous êtes directeur technique et sportif du Fontenay Karaté Shotokan, un club donc qui se porte bien dans le pays de Fontenay.
Et il faut que ça sache. Et un grand merci et une bonne route à Digue Radio qui nous accompagne aussi depuis sa création. Et voilà,
qu'on essaie de faire les choses comme ça.
Il faut des relais d'informations qui suivent. Et on a Télé-Vendée qui vient la semaine prochaine. Mm-hmm. On avait France 3 Pays de la Loire qui vient quasiment chaque année, qui vient dans le Sud-Vendée pour parler du karaté. Et on est content de voir Digue Radio faire partie de ces médias dynamiques qui parlent du territoire dans tout ce qu'il a de bien, ce qu'il a de positif, et qui font rayonner le territoire également.
Et en l'occurrence, la salle. Merci beaucoup. Merci aussi à Christian, Olivier, Nicolas qui étaient autour de la table aujourd'hui. Et puis nous, on va se retrouver dans quelques semaines pour un nouvel épisode du Sud Vendée Sport.
Toute la journée, vous écoutez Digue Radio sur digradio.fr.